La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Alors bonjour mesdames et messieurs, le monde va bien, et parce que le monde va bien, je vais laisser cet édito à ma prof de yoga qui s'appelle Yolande, donc voilà Yolande, c'est à toi. Vous allez entendre tout au long de cette émission des intervenants parler de sujets variés qui pourront peut-être vous sembler graves, déprimants, qui pourraient peut-être vous plonger dans des affres de déprime qui rappellent les heures terribles du retour de Manuel Valls au gouvernement. Mais rassurez-vous, tout va bien. Il faut vous couper du monde extérieur et vous recentrer sur vos chakras. Maintenant, visualisez l'espace de la France et appliquez-y votre feng shui intérieur. Zou ! Plus de Manuel Valls, plus de Bruno Retailleau, c'est le retour des jours heureux. Le SMIC n'a jamais été aussi élevé et des dauphins nagent dans la Seine pour repêcher des trésors. Anne Hidalgo expulse un collectif de mineurs réfugiés qui occupait par dépit un espace culturel afin de réclamer des conditions de vie décentes, malgré le silence complice des multiples acteurs, à tout hasard la ville de Paris, capable de faire quelque chose. Pas de soucis, inspirez bien fort avec moi. Et hop, Anne Hidalgo flotte dans les nuages, là où on ne peut plus l'entendre, et immédiatement, des immeubles sont réquisitionnés pour pouvoir loger toutes les personnes en difficulté. Israël bombarde encore Gaza ? Concentrez-vous sur vos points clés, et en un instant, les bombes se transforment en myriades de confettis pour fêter la fin du colonialisme. Vous voyez ? Tout va bien, c'est une simple question de perspective et de développement personnel. Notre monde a besoin de douceur et d'apaisement. Merci Yolande pour cet édito tout en douceur, hein, peut-être un peu trop. L'apaisement et la douceur, ça va bien deux minutes. Il faut lutter activement contre le fascisme et le colonialisme. Alors amis auditeurs et auditrices, ne lâchez pas la lutte. On a besoin d'un monde peut-être sophrologisé, pardon, et anti-occident, mais aussi anti-raciste et anti-impérialiste. Donc on fait une cure de myrtille, on inspire, on expire, mais surtout, on sort manifester le 22 mars. Allez, on passe à la suite. Au sommaire ce soir, un zoom enregistré sur les enjeux de l'ARCOM avec son président Martin Ajdari. Antoine fera le tour des actus du jour avec son flash info et Fabien nous proposera sa chronique. Mais tout de suite, une interview sur le plan d'adaptation au changement climatique du gouvernement avec Robin L, donc chargé de campagne et de plaidoyer chez Oxfam France. Un entretien signé PA.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Romain, bonjour PA.
Salut.
Salut.
Salut Delila, salut à toutes et à tous, et salut Robin. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Comme on l'a dit juste avant, tu es chargé de campagne et de plaidoyer chez Oxfam France, spécialisé en adaptation au changement climatique. Et on te reçoit ce soir pour parler du troisième plan national d'adaptation au changement climatique, qu'on appelle PNAC 3, qui a été présenté par la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher le 10 mars dernier, avec plus d'un an de retard. Ce plan, il a été vivement critiqué par de nombreux acteurs, dont l'ONG Oxfam France, qui a dénoncé dans un communiqué de presse, je cite, « une nouvelle occasion manquée de protéger la population ». Et on aura l'occasion d'y revenir au cours de la discussion. Avec pour plaisir. Commencer, est-ce que tu peux commencer par présenter rapidement l'ONG Oxfam France et les sujets sur lesquels cette ONG travaille ?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Oxfam France, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est une ONG qui a été créée en 1988 elle s'appelait Agir ici. Désormais, elle fait partie d'un réseau d'affiliés de 21 organisations dans différents pays qui luttent contre les inégalités. Et en fait, nous, notre principe en France, surtout, c'est d'être le pouvoir citoyen, à la fois pour lutter contre la face émergée des inégalités, vraiment pour aider les personnes en grande détresse, mais aussi pour lutter contre les inégalités vraiment à la source. Donc en fait, ce qu'on fait aussi, c'est de dénoncer vraiment l'accaparement des richesses par une poignée de citoyens, de citoyennes, et aussi essayer de proposer des manières pour vraiment transformer tout le système qui aggrave toujours plus les inégalités. Mmh. Donc actuellement, en fait, nous sommes une équipe ici à Paris, mais nous sommes aussi dans les pays du Sud. Et nous avons aussi des couples locaux en France avec des bénévoles qui, tous les jours, milite pour un monde plus juste et plus égal.
Mmh, très bien. Et justement, comme je disais tout à l'heure, nous, on te reçoit pour parler du PNAC, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, qui, comme son nom l'indique, et pour mieux comprendre les enjeux et le contexte, c'est un plan d'adaptation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir ce que recouvre ce terme d'adaptation, et en particulier, comment il est souvent soit mis en complémentarité, soit en opposition avec le terme d'atténuation, qui est c'est quoi l'adaptation et c'est quoi la différence avec l'atténuation?
Oui, je pense qu'effectivement, adaptation et atténuation, ce sont les deux termes qu'on va beaucoup utiliser ce soir, qui sont assez proches, mais qui sont quand même assez différents au final. Donc, l'atténuation, c'est ce dont on parle souvent quand on pense au changement climatique. Donc, en fait, déjà, donc, par exemple, le protocole de Kyoto de 1998 parlait surtout de comment baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, par la suite aussi, comment éviter que les températures augmentent trop rapidement et surtout qu'ils augmentent tout court. Et du coup, c'est aussi l'objectif principal de l'accord de Paris, donc de maintenir les températures en deçà de 1,5 degré. Et si ça, c'est pas possible, en deçà de 2 degrés. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure aussi sur ces objectifs-là. Mais juste pour dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la loi, à la fois au niveau européen, mais aussi en France, on a l'objectif d'une réduction de ces émissions-là de 55% au niveau européen et de les diviser par deux en 2030 en France. Avec comme objectif de long terme vraiment la neutralité carbone à la fois en France et au niveau de l'Union européenne en 2050. Donc tout ça, ça c'est l'atténuation, donc vraiment la lutte contre le changement climatique.
D'accord.
Et ce fameux PNAC 3, qui est vraiment pas très joli comme acronyme, mais voilà, ça c'est vraiment le plan national d'adaptation. Donc en fait, l'hypothèse de départ, c'est qu'on va avoir déjà des effets du changement climatique. Et en effet, ils sont déjà là. Et la raison pour laquelle je pense que vous avez aussi pensé à Oxfam, c'est que ces effets-là aggravent déjà aujourd'hui les inégalités et vont encore les aggraver. Et en fait, l'idée de l'adaptation, c'est de transformer nos sociétés, d'anticiper ces conséquences-là pour éviter que les effets causent des dégâts encore trop grands.
Ok. Est-ce qu'on peut dire que l'adaptation, c'est une démarche de court terme et l'atténuation, une démarche de long terme plutôt? Est-ce que c'est une bonne façon de voir le problème, de voir les choses?
Je pense qu'il faut absolument que les deux aillent toujours de pair.
D'accord.
Donc, en fait, là, les premières actions qui ont été mises en place, bien trop tardivement, mais qui, pour le moins, ont été inscrites aussi dans la loi, concernent toute l'atténuation. Okay. Donc, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour réduire les émissions du secteur des transports? C'est tout le débat, par exemple, aussi sur les voitures électriques. Après, la question, c'est, OK, est-ce qu'on peut atténuer sans s'adapter? On aurait pu, si on aurait commencé, bien plus tôt, des décennies plus tôt. Là, malheureusement, c'est trop tard pour uniquement penser la atténuation sans l'adaptation. Maintenant, il faut absolument penser les deux ensemble. Mais, et je le dis tout de suite, et j'aimerais bien y revenir tout à l'heure aussi, il ne faut jamais juste penser l'adaptation. D'accord. Parce qu'en fait, si on fait ça, on ne va jamais y arriver. On aura des énormes inégalités. On aura aussi des milliers de morts. Ça va être catastrophique. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours penser les deux ensemble.
D'accord. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Et pour venir sur ce PNAC, donc ce plan d'adaptation, le premier avait été lancé en 2011 par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Il a été réactualisé en 2018, le PNAC 2. Et donc, une nouvelle actualisation en mars 2025 avec le PNAC 3. De façon générale, c'est quoi l'ambition du gouvernement? C'est quoi sa volonté à travers ces plans? Et en particulier, que contenaient les deux premiers PNAC, le PNAC 1 et le PNAC 2? Qu'est-ce qu'il y avait dedans concrètement?
Alors, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a entendu parler de ces deux premiers plans? Et voilà, moi, je travaille sur le sujet et je vous avoue que moi, j'en ai pas entendu parler. Et je pense que je ne suis pas le seul parce que ces deux premiers plans n'ont pas vraiment fait de bruit. Et en fait, il y avait bien sûr une volonté du gouvernement de faire avancer l'adaptation. Mais le gouvernement, dès 2011, donc dès le premier PNAC, était déjà obligé de le faire. Parce qu'en fait, par exemple, la COP de Cancun, donc la conférence des parties prenantes de tous les États qui travaillent sur les questions climatiques, avait déjà décidé en 2010, donc en Mexique, que chaque partie, donc chaque État au final, doit élaborer un tel PNAC. C'est D'accord. ce que la France a fait en 2011, donc un an après. Après, en fait, quand on regarde vraiment le contenu, ils sont accessibles en ligne. Mmh. Ce sont des documents assez flous, assez très peu contraignants. Et au final, on voit que en fait, ce PNAC 3, donc le troisième PNAC qui a été présenté il y a quelques jours, ça, c'est vraiment le saut qualitatif qui vraiment fait avancer l'adaptation en France.
D'accord. Là où avant, on était un peu plus pour la forme, et là, ça devient un peu plus concret, peut-être.
Oui, okay. C'est ça.
Et du coup, ce PNAC 3, il a été présenté donc, il y a quelques jours, le 10 mars, et il se donne explicitement comme ligne de conduite de préparer la France à un réchauffement de plus 4 degrés d'ici 2100, qui correspond en fait à la trajectoire actuelle compte tenu des politiques actuelles et des engagements à venir. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'horizon plus 4 degrés en 2100 soit devenu la trajectoire de référence retenue par le gouvernement au détriment d'une trajectoire peut-être plus ambitieuse où on aurait visé un réchauffement un peu plus faible? Pourquoi c'est celle-là qui a été choisie?
En fait, c'est ce que les mouvements climat dénoncent depuis des années, mmh. depuis des décennies. C'est l'inaction des hommes et des femmes politiques. C'est aussi le refus des entreprises de s'adapter. Ce sont aussi les investissements qui continuent dans les énergies fossiles ouais. Qui font que, en fait, les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. Aujourd'hui, si on continue comme ça, nous sommes dans une trajectoire de plus de 2,7 degrés ouais. en 2100 D'accord. à l'échelle mondiale. Mmh. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2,7 degrés à l'échelle mondiale, ça veut dire 3,7 degrés en France.
Parce qui que se réchauffe plus vite, c'est ça?
C'est ça, tout D'accord. à fait. C'est un peu, voilà, c'est compliqué à expliquer, mmh. mais en fait, avec...
c'est voilà. une moyenne, quoi, c'est une moyenne sur oui, l'ensemble oui. du globe. Donc, il y a certains pays qui se réchauffent plus et d'autres qui se réchauffent moins, c'est ça?
Tout à fait, okay. c'est ça. Et du coup, voilà, si on veut ajouter une petite marge de manœuvre ouais. ou une petite marge de sécurité, on va dire. C'est pour ça que en fait, les 4 degrés, malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus réaliste.
D'accord. Et est-ce que c'est considéré comme quelque chose qui est peu ambitieux de manière générale? Est-ce que, en particulier, Oxfam considère que c'est une trajectoire qui est peu ambitieuse, en fait?
Bien sûr.
Une volonté qui est peu ambitieuse.
Bien sûr. Pardon, c'était pas très clair. Non, ouais, non, bien ouais. sûr. Il faut absolument éviter que ça arrive.
Oui, ouais, bien sûr.
Parce que, en fait, là, la trajectoire actuelle avec les 2,7 degrés, ouais. c'est où on sera en 2100.
D'accord.
S'il n'y a pas d'engagement supplémentaire.
Or, si on continue comme on fait maintenant.
C'est ça. D'accord. C'est en fait quand on regarde, ok, tous les pays ont promis de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre ouais. En 2037 de X%, etc. Mais il faut absolument réduire ça, parce que en fait les conséquences, et ça, si vous voulez, je peux y revenir aussi, mm-hmm. seraient catastrophiques à la fois pour la France, mais aussi pour les pays du Sud, ouais. et plus généralement pour en fait tous les pays du monde. Mm-hmm. Un réchauffement de 3,7 degrés serait absolument catastrophique. Il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça serait aussi mon premier message mm-hmm. ce soir, c'est que même si on parle d'adaptation, il faut toujours parler aussi de la lutte contre le changement climatique, ouais. parce que vraiment chaque dixième de degré, chaque action compte et continue à compter, parce qu'il est encore temps d'agir et mm-hmm. il est encore temps de freiner le changement climatique.
On va juste se laisser pour une petite pause musicale et on va revenir juste après. We'll be right back. c'était Clay in Water de Meta Room. Et tout de suite, on va reprendre notre interview avec Robin L, qui est donc, excusez-moi, chargé de campagne et plaidoyer chez Oxfam France.
La matinale de 19h.
Merci Delila. Effectivement, avant la pause, on était avec Robin L, chargé de campagne et de plaidoyer chez Oxfam France, et on parlait du PNAC 3, le plan d'adaptation au changement climatique publié par le gouvernement le 10 mars dernier. Et pour entrer un peu dans le cœur de ce PNAC 3, concrètement, il avait été lancé par l'ex-premier ministre Michel Barnier en octobre 2024, et après deux mois de consultation publique à laquelle Oxfam a participé d'ailleurs, il a abouti à un ensemble de 52 mesures et de 200 actions à mettre en place. Robin, de façon générale, quels sont les leviers d'action sur lesquels le gouvernement entend s'appuyer avec ce PNAC 3, et en particulier, quels changements majeurs y trouve-t-on par rapport aux deux derniers PNAC qu'on a vus avant, que les deux premiers étaient un peu pour la forme et ne contenaient vraiment pas grand-chose de concret? Donc quels sont les changements majeurs qu'il y a et sur quoi ce PNAC 3 repose?
Je pense que ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que l'adaptation au changement climatique, ça concerne tous les secteurs. Mmh. Et par conséquent, ça concerne aussi l'ensemble des ministères, ça concerne l'ensemble des politiques publiques, à la fois au niveau national, mais aussi, du coup, ensuite au niveau régional, au niveau local, et ça concerne vraiment tous les domaines de la vie.
D'accord.
Et c'est ça ce qui fait aussi de ce fameux PNAC 3 une spécificité par rapport à d'autres projets de loi ou par rapport à d'autres propositions de loi. C'est qu'en fait, là, il n'y a pas juste un seul ministre ou une seule ministre qui est derrière, mais normalement, en théorie, voilà, je le souligne, c'est que en fait, tout le monde devrait travailler ensemble pour D'accord. élaborer une feuille de route pour vraiment adapter tous les territoires, toute la France, au changement climatique. Donc, par exemple, pour vraiment rentrer dans le vif du CG, l'idée, c'est de dire, OK, maintenant, on ne va pas juste se baser sur les données du passé. On ne va pas juste regarder, OK, en 1900, en moyenne, le climat, c'était quoi? Et ensuite, on va accorder l'autorisation de construire une maison ou pas. Mais on va se dire, OK, cette maison-là, est-ce qu'elle tiendra toujours debout si à tel endroit il y a des inondations de X centimètres qui peuvent arriver une fois par an. Mm-hmm. Et c'est ça, en fait, le changement majeur. C'est la philosophie qui est derrière. Voilà, c'est très, très imparfait. Pourquoi ? Parce que contrairement aussi à l'atténuation, ouais. donc à la lutte contre le changement climatique, ça ne sera pas inscrit dans la loi.
D'accord.
Ça sera uniquement... Bah déjà, en fait... À l'heure actuelle, c'est juste une promesse. C'est mmh. juste la ministre de l'Environnement qui le dit, et ça pourrait être inscrit dans le règlement. Donc, ce qui peut être édicté par le gouvernement sans passer par le Parlement. Ça ne sera pas forcément contraignant, et pour le moment, c'est juste une promesse. Mais voilà la philosophie générale, c'est vraiment...
C'est une déclarative, en fait, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Si on va faire ça, on a des mesures, on a des idées, mais il n'y a aucune... contrainte pour que ça soit effectivement appliqué, c'est ça ?
C'est ça.
D'accord.
Et derrière, donc, il y a 51 actions qui sont contenues dans ce plan national d'adaptation au changement climatique,
ouais.
et qui énoncent un peu pour différents secteurs, par exemple pour l'agriculture, pour l'eau, après aussi pour le logement, pour les transports, les mesures que le gouvernement compte mettre en place. Petit spoiler, peut-être déjà, en fait, sur l'agriculture, c'est uniquement... Des études.
D'accord.
En fait, il n'y a rien de concret, parce que même si ça contient une mesure, et voilà, le document, il fait quasiment 400 pages, ça semble très étoffé, ça semble très élaboré.
Ouais.
Derrière, il y a beaucoup de formules vides, en fait, et c'est ce qu'on dénonce aussi chez Oxfam France. On a plusieurs points de critique, parce qu'on a vraiment analysé ce PNAC avec tes collègues, on a travaillé dessus depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et voilà, on constate qu'il y a un saut qualitatif.
D'accord.
Mais il reste très largement insuffisant aussi, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, OK, à tel et tel moment, le gouvernement veut mettre ça et ça en place,
ouais.
parce qu'en fait, il manque des dettes,
ouais.
il manque aussi des indicateurs de suivi. Là, la seule chose qu'ils ont dit, par exemple, ils veulent créer un groupe de travail à telle et telle date, ou alors ils veulent avoir réalisé une étude de faisabilité jusqu'à ouais. telle et telle date. Bah, c'est très, très bien, c'est déjà ça. Mais en fait, une étude ou un groupe de travail, ça ne change rien.
Ouais.
En fait, ça ne protège personne d'une canicule. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait à minima, ça serait de dire, OK, en fait, on veut protéger X personnes des canicules qui vont arriver en 2030, en 2040. Ça, ça serait un vrai indicateur de progrès. Ouais. On n'en est pas là.
OK. On reviendra un petit peu plus tard, effectivement, sur les indicateurs qui pourraient être mis en place pour vérifier l'efficacité de ce plan. Pour commencer d'abord, le PNAC 3, il a notamment été pointé du doigt par le Haut Conseil par le climat dans un avis rendu le 13 mars dernier qui précise que, je cite, les financements favorables à l'adaptation dans le PNAC 3 restent très insuffisants. Et de son côté, Oxfam France dénonce même un bricolage financier dangereux. Est-ce que tu pourrais parler un peu de comment ce plan il est financé et à combien s'élève son budget et d'où va venir en fait concrètement l'argent et à quoi il va servir?
Alors, la question c'est, est-ce qu'il y aura de l'argent?
Ouais.
C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Parce que quand Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre de l'Environnement, a présenté le PNAC, elle a mis en avant un certain nombre de mesures qui, effectivement, laissent d'abord penser que le financement pour l'adaptation a été augmenté. C'est vrai, la dernière loi de finances, donc celle pour 2025, elle a augmenté un certain nombre de fonds, notamment donc le fonds Barnier,
ouais,
qui a été abondé de 65 millions d'euros.
Est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est le fonds Barnier peut-être?
Oui, pardon. Le fonds Barnier, c'est un fonds qui sert justement à l'adaptation. Donc surtout, par exemple, quand il y a des maisons qui sont construites dans une zone exposée à un risque de sécheresse, ce fonds-là, il permet de stabiliser ces maisons pour éviter que des fissures n'apparaissent dans les
murs. Pour les travaux, par exemple ou...
Tout à fait,
d'accord,
c'est ça.
Ok.
Donc, c'est 750 millions... 75. C'est 75 millions d'euros supplémentaires. Mm-hmm. Ils ont effectivement été votés. C'est une bonne chose, mais ça reste bien en deçà des besoins.
D'accord.
Et surtout, c'est aussi un décalage par rapport à ce que les propriétaires des maisons doivent payer, en fait, parce que dès le depuis le 1er janvier, il y a eu une augmentation de la surprime pour les assurances.
D'accord.
Qui va faire que tout le monde qui possède une maison, et même les personnes dans les appartements pour leurs assurances, doivent payer plus justement pour normalement s'assurer contre ces risques-là.
D'accord.
Et en fait, cette augmentation-là, elle permet de récolter bien plus d'argent que ces 75 millions d'euros qu'ils ont été du coup utilisés maintenant pour augmenter le fonds Barnier. Donc, on voit déjà très rapidement qu'on creuse un petit peu que les annonces mises en avant sont loin insuffisantes et surtout qu'ils ne reposent pas vraiment sur des recettes budgétaires nouvelles. Là, c'est vraiment juste une contribution des particuliers qui doivent payer plus aussi pour les risques climatiques. Ce qui manque, c'est un vrai plan d'investissement pour financer l'adaptation. Il n'y a rien en ce sens dans ce PNAC.
D'accord.
Et ça, c'est en fait le gros défaut de ce PNAC, parce que c'est bel et bien d'annoncer des mesures. 51 mesures, c'est très bien. On aurait pu en avoir 30. Déjà, ça aurait été bien.
Ouais.
Mais en fait, là, ce que le gouvernement a fait, c'est en fait, ils ont demandé à des architectes de leur présenter un plan. Voilà, des architectes sont arrivés, le plan il est là, mais le maître d'ouvrage, il n'a pas d'argent pour vraiment construire le bâtiment après. Et c'était bel et bien.
C'est juste l'étude et en fait, il n'y a rien pour financer derrière les travaux qu'il faut mettre en place, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement.
Okay.
Et même, en fait, aujourd'hui, on ne sait même pas encore si le plan qui a été présenté, il est vraiment à la hauteur des enjeux.
Ouais.
Mais... grosso modo, ça ne change rien à partir du moment où il n'y a pas suffisamment de financement pour vraiment financer l'adaptation. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là? C'est que, en fait, l'adaptation, elle coûte, bien sûr, des investissements dès aujourd'hui. Sans investissement, on ne peut pas avancer. Mais surtout, et c'est là où, en fait, ça devient encore plus absurde, c'est que si on investit aujourd'hui, au final, ça va nous permettre de faire des économies. Parce que plus on retarde les investissements.
Bon, on aura payé plus tard.
Voilà. Et du coup, en fait, chaque euro investi aujourd'hui permet d'éviter des dégâts demain. Donc en fait, même l'excuse de se dire, OK, aujourd'hui, il n'y a pas de budget, ça ne tient pas la route. Parce qu'en fait, quand on regarde, c'est que si on investit aujourd'hui, c'est faire des économies pour demain. Donc C'est ça
vaut le coup, quoi. Voilà. Très bien. Et un des points de discorde et un des points majeurs que dénonçait Oxfam, c'est le fait que ce plan n'est pas adapté à la protection de la population, notamment des personnes les plus vulnérables. Alors même que la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, déclarait, quand elle présentait le plan, que l'écologie, c'est protéger les gens, selon ses mots. Et Oxfam France, de son côté, dénonce à l'inverse que, je cite, le gouvernement manque à son obligation de protéger toute la population, et tout particulièrement les personnes les plus vulnérables. Est-ce que, pour commencer, tu peux rappeler en quoi le changement climatique est source de renforcement des inégalités, notamment en France, et quelles sont les populations vulnérables que vous mentionnez à Oxfam, et quels sont les risques auxquels ces populations sont exposées?
Alors, potentiellement, tout le monde est vulnérable. En fait, c'est ça aussi ce qui est à la fois effrayant, mais ce qui est aussi important de rappeler, malheureusement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains groupes de la population qui sont aujourd'hui déjà vraiment très exposés, ouais, aux conséquences du changement climatique et qui n'ont pas les moyens de se protéger. Ce sont par exemple les personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, qui sont bien plus vulnérables au changement climatique. C'est même aussi, ce sont plusieurs autorités du gouvernement de l'État, pardon, qui le reconnaissent aussi dans les analyses. Et l'adaptation de ces territoires-là, de ces quartiers-là, n'est pas du tout prise en compte par le PNAC.
Ils n'en parlent pas du tout ?
Ils n'en parlent pas du tout. D'accord. Et en fait, c'est problématique parce qu'il y a déjà aujourd'hui des mesures qui visent, par exemple, à protéger les logements de la chaleur. C'est par exemple en lançant des travaux de rénovation grâce à la prime MaPrimeRénov, ouais, donc c'est un dispositif d'aide. Mais en fait, quand on regarde, pour les personnes, les 10% les plus pauvres de la population, en fait, il y a des restes à charge qui sont égaux à 4 à 14 ans de leur revenu.
D'accord.
Et donc, en fait, ça fait que ces personnes-là ne pourront jamais vraiment rénover leur logement, parce que qui a l'argent, qui peut mettre 4 ans, ouais, ou 14 ans de son revenu dans la rénovation de son appartement? Mmh. En fait, c'est pas très réaliste. Donc, en fait, ces personnes-là vont souffrir la chaleur, vont éventuellement même mourir en fait de la chaleur. Ouais. Et le plan national d'adaptation au changement climatique ne propose pas vraiment de mesures pour leur venir en aide. Ça, c'est un des exemples, mais après, il y en a énormément d'autres, malheureusement. Ce sont aussi les soignants et les soignantes, ouais, dans les hôpitaux, qui soit sont eux et elles aussi exposés à la chaleur, soit c'est juste, ou je dis juste, mais c'est surtout la surcharge de leur travail, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les vagues de chaleur? En fait, ils vont aider les personnes qui vont venir aux urgences. Et donc, en fait, pendant les canicules, ils vont avoir des pics d'activité. Et quand on regarde, en fait, c'est qui travaille dans les hôpitaux? Bah, soit ce sont des aides-soignants et des aides-soignantes qui ne sont pas forcément hyper bien payés. Donc voilà, déjà une catégorie vulnérable. Mais ce sont aussi 75% de femmes. Et en fait, les inégalités de genre ne sont pas du tout prises en compte, là aussi, par le gouvernement dans ce plan. Et tout ça, ce ne sont pas juste des mesures ici ou là, mais ce sont vraiment des défauts structurels. Ouais. C'est très très grave, en fait, ce qui se passe là, parce que là, le gouvernement, ils vont se plaquer comme si c'était la panacée pour préparer la France aux 4 degrés, alors que c'est tout le contraire, en fait, parce que là, à partir du moment où on ne prend pas compte de ces inégalités, en fait, on va les creuser encore, on va les aggraver encore. Et c'est ça ce qui est en train de se passer si on mettait en œuvre ce plan, s'il y avait du financement, donc si on pouvait le mettre en œuvre. Et c'est très très grave, donc il faut absolument revenir sur ce plan. Il faut absolument le compléter par des mesures qui luttent justement contre ces inégalités, qui enfin prévoient aussi de la protection pour les personnes les plus vulnérables. Je n'ai plus le temps.
Oui, on va s'arrêter là-dessus, malheureusement, mais merci beaucoup Robin d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es chargé de campagne et de plaidoyer chez Oxfam France et que tu venais parler du plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement. Merci beaucoup.
Merci tout beaucoup,
à fait. Je redonne la parole à Lila.
Merci. Était avec nous et merci PA pour avoir mené cette interview. Et avant de passer à la suite, une pause s'impose.
yesterday. But now I've joined the cavalry, and my head's been shaved. And I cry like your baby, but I'm trying not to break.
Space Cowboy de Flip Turn, et avant de reprendre, je vous rappelle qu'on est bien sur Radio Campus Paris et on va tout de suite prendre une dose d'infos avec Antoine.
Le flash info de la matinale de 19h.
À la une de ce 18 mars, fin de trêve à Gaza, au moins 413 morts et des centaines de blessés selon le gouvernement palestinien, dont les frappes israéliennes cette nuit. Le silence de la trêve a donc succédé aux éclats des bombes depuis ce mardi matin. Des frappes sans précédent sur la bande de Gaza qui marquent la fin de la trêve instaurée depuis le 19 janvier dernier et qui plonge le Moyen-Orient dans l'inconnu la plus totale. Israël justifie son offensive par le refus du Hamas de libérer les 52 derniers otages actuellement dans la bande de Gaza. Le Hamas dénonce quant à lui un coup d'état sur le droit international de la part de l'État hébreu. Benjamin Netanyahou est en effet arrangé par ce calendrier, lui qui devait aujourd'hui comparaître devant le tribunal israélien dans trois affaires de corruption qui ont évidemment été annulées. Il est donc évident que ces affaires politiques passent désormais au second plan pour laisser place à de nouveaux massacres au cœur du Moyen-Orient. Un nouveau conflit qui vient donc bouleverser l'ordre mondial alors que l'appel entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se tient depuis cet après-midi. Une question se pose, Donald Trump va-t-il réussir à convaincre Vladimir Poutine sur une trêve de 30 jours entre l'Ukraine et la Russie ? Les discussions entre le Kremlin et la Maison Blanche visent à fixer les conditions de la potentielle trêve où la Russie semble avoir les cartes en main pour fixer ses conditions tant géographiques que politiques. Une trêve qui interviendrait alors dans un conflit qui dure depuis maintenant plus de 3 ans et dans lequel la Russie multiplie ses offensives sur le front. Ce mardi 18 mars a aussi été marqué par une évacuation au petit matin en plein cœur de Paris. Policiers et forces de l'ordre ont délogé les jeunes migrants de la Gaîté Lyrique, salle de spectacle de la capitale. Environ 400 jeunes migrants occupaient la salle depuis plus de 3 mois après avoir demandé un hébergement et la reconnaissance de leur statut de mineur. Une décision prise par le préfet de Paris et qui n'a pas fait l'unanimité pour de nombreux militants et élus qui se sont réunis tôt ce matin pour protester face à cette décision. Évacuation sous tension pour ces jeunes soutenus par plusieurs associations et élus malgré l'important dispositif policier présent sur place. Les migrants devront désormais sont désormais dans l'incertitude quant à leur hébergement et devront attendre les décisions des autorités politiques sur leur nouveau lieu d'hébergement. Enfin, un peu de sport, le Paris Basket reçoit ce soir à 20h30 l'équipe de l'Olympia Milan dans un match qui s'annonce plus que serré entre deux concurrents directs dans un match pour la course à la phase finale. Une victoire impérative pour Paris qui souhaite continuer son parcours européen et se qualifier pour les play-in de l'Euroleague. On suivra bien évidemment ce match et le résultat des Parisiens.
Merci Antoine pour ces news très peu réconfortantes et on va directement se saisir de notre petite loupe pour passer au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors la semaine dernière, Radio Campus Paris s'est rendu aux Assises internationales du journalisme à Tours, Radio Campus France même, et à cette occasion, Manon de Radio Campus Toulouse et Natacha de Radio U ont pu s'entretenir avec Martin Hajdari, donc le nouveau président de l'ARCOM. Elles l'ont interrogé sur les enjeux de la régulation des contenus audiovisuels et on va écouter ça tout de suite.
L'ARCOM, l'autorité publique indépendante française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, nous avons le plaisir de recevoir son nouveau président, Martin Hajdari. Dari, en poste depuis février dernier, qui nous accorde cette interview dans le cadre de cette 18e édition des Assises du journalisme. Bonjour, monsieur Hajdari.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Aujourd'hui, on sait qu'une grande partie de la population s'informe et consulte des contenus audiovisuels sur Internet et ses diverses plateformes. Selon les chiffres de l'ARCOM, du projet stratégique 2023-2025, on sait que 32% des Français utilisent Internet comme première source d'information, une proportion qui s'élève à plus de 66% pour les moins de 35 ans et plus de 50% de la consommation vidéo totale des 15-24 ans est sur Internet, devant la télévision 29% et les services de vidéo à la demande 19% en 2020. Nous citerons ici une ligne du même document, je cite « Les plateformes en ligne permettent un accroissement du champ d'application des libertés publiques et en premier lieu de la liberté d'expression en offrant d'autres espaces de parole et de nouveaux canaux de diffusion. »
En effet, on constate une réelle évolution de l'audiovisuel, de sa consommation et de ses canaux de diffusion, ce qui entraîne donc évidemment de nouveaux enjeux. Alors justement, quels sont les nouveaux enjeux pour l'ARCOM lorsqu'il s'agit de la régulation des contenus sur Internet ? Comment l'ARCOM collabore avec les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, X ou les plateformes telles que YouTube, Dailymotion en matière de contenu ?
Merci beaucoup. Tout d'abord, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ces nouveaux réseaux, ces plateformes sont des espaces de communication nouveaux qui sont une opportunité formidable pour que la population, les communautés puissent échanger de manière beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus décentralisée que sur les médias historiques qui sont plus sur le mode du broadcast, sur un mode plus unidirectionnel. Ensuite, évidemment, la régulation, elle est très différente selon que vous êtes sur une communication audiovisuelle classique ou sur des réseaux numériques, réseaux sociaux, plateformes, où vous avez des millions de producteurs de contenu, des millions de destinataires différents, et vous ne pouvez pas les contrôler tous. D'ailleurs, souvent, ça n'a pas d'enjeu, puisque souvent, ce sont des contenus échangés entre quelques personnes, quelques individus, ou dans des groupes relativement restreints. Ce que nous faisons en termes de régulation, en revanche, et qui est organisé au niveau européen, c'est une régulation qu'on qualifie de systémique, qui vise les plus grandes plateformes, celles qui concentrent le trafic le plus important, donc les grandes plateformes ou moteurs de recherche que vous avez cités, que l'on connaît, les Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, Google, qui pour être concernés par cette régulation, doivent recueillir plus de 45 millions d'utilisateurs. Pourquoi 45 millions ? Ça fait 10% de la population européenne. Et au niveau européen, on met en place un ensemble de règles qui sont à mi-chemin entre la régulation et la supervision, des règles qui permettent de lutter contre les risques systémiques que posent ces plateformes. Encore une fois, ce sont des opportunités pour la création et la circulation de contenu, mais aussi des risques, on les connaît. Risques en termes de haine en ligne, risques d'atteinte portée aux enfants et aux mineurs, risques d'atteinte à la propriété intellectuelle, risques de diffusion massive d'informations fausses qui peuvent déstabiliser les processus électoraux ou faire peser des risques pour la santé publique. Donc ces risques-là, ils sont existants, on les observe de plus en plus. Et la régulation qui est mise en place au niveau européen, elle vise à discuter avec ces plateformes, leur demander de mettre en place toute une série de dispositifs. Par exemple, de la modération de contenu, un ensemble de mesures qui doivent faire de ces plateformes, de ces réseaux, des espaces sûrs, notamment en termes d'information, pour qu'ils contribuent au développement de la société plutôt qu'ils ne lui portent atteinte.
On va enchaîner avec la seconde question. On va revenir un petit peu aussi sur les médias traditionnels et un petit peu le lien.
Le fait qu'une autorisation d'émettre ne soit pas renouvelée pour une chaîne, puisque c'est ce qui s'est passé en l'espèce, après 20 ans d'autorisation d'émettre, une mise en concurrence, cette fréquence n'a pas été renouvelée, ça n'empêche pas pour autant l'émission de continuer à exister si elle est produite, d'être diffusée, en l'occurrence sur du câble ou des réseaux câbles ou satellites, mais aussi sur YouTube, Dailymotion, des plateformes de partage de vidéos. Alors, moi j'en pense du bien, puisque ces plateformes sont là aussi pour diffuser des contenus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même sur des réseaux câblés, et a fortiori même sur YouTube ou Dailymotion, il y a des règles à respecter. Lorsqu'on est un service de communication audiovisuelle, et a priori une émission est un service de communication audiovisuelle, sur un réseau comme YouTube qui est très ouvert, à peu près à toute la population, vous avez des règles à respecter. Ce ne sont pas les mêmes règles que celles qui s'imposent à une chaîne de télévision. Typiquement, une chaîne de télévision doit financer la création audiovisuelle, financer le cinéma. On ne demande pas ça aujourd'hui à une émission, un contenu audiovisuel présenté sur YouTube. En revanche, en matière de respect de la dignité de la personne humaine, en matière même de pluralisme ou d'honnêteté de l'information, on peut demander, contrôler et demander s'il y a des signalements à des émissions de respecter nos règles, même si elles sont diffusées sur une plateforme de partage de vidéos.
Mais vous parlez du coup, vous parlez du respect de la dignité humaine justement, donc qui est quelque chose d'important, pour l'ARCOM, donc du coup sur la télé là en l'occurrence. Mais du coup, ces contenus-là, on peut encore les retrouver justement sur YouTube. Au final, est-ce que ça pose pas toujours un problème, puisque en fait le public a toujours autant accès en fait à ces émissions? Est-ce que ça change vraiment quelque chose maintenant?
Alors il y a deux choses différentes. De manière générale, ce qui est illégal à la télévision est aussi illégal en ligne. Et dans ce cas-là, la justice peut intervenir et constater l'illégalité d'un contenu et permettre derrière des poursuites. Du point de vue de la régulation audiovisuelle, qui est administrative et pas pénale cette fois-ci, on a des moyens d'action qui peuvent être plus importants sur une chaîne de télévision. Mais néanmoins, on peut intervenir aussi lorsqu'il s'agit de communication audiovisuelle sur YouTube, et il n'y a pas d'espace d'impunité. Il y a simplement une gradation dans les engagements, les contreparties, ce que nous vérifions comme régulateurs, qui ne sont pas de la même intensité selon qu'on est sur une chaîne de télévision ou sur une vidéo diffusée sur YouTube ou Dailymotion. Mais il n'y a pas d'espace de non-droit complet. En particulier pour le respect de la dignité de la personne humaine.
Par rapport au DAB+, qui n'est pas encore très répandu et connu dans les radios, quelle est votre stratégie de communication sur cette arrivée du DAB+?
Alors, le DAB+, il est connu quand même parmi les radios. La difficulté, c'est qu'il soit vraiment connu parmi la population et que donc la population fasse un mouvement d'équipement au-delà de l'installation native dans les autoradios notamment qui est déjà acquise. Pour ce faire, l'ARCOM a publié un livre blanc de la radio il y a un peu moins d'un an, qui a regroupé un ensemble de mesures visant à populariser le DAB+ et aussi promouvoir différentes dispositions réglementaires qui permettront à cette norme de s'imposer. Un des points importants a été aussi la constitution d'une association Ensemble pour le DAB+, qui, elle, va maintenant devoir porter de manière autonome, parce que le régulateur n'est pas là pour porter une norme en tant que telle, il est là pour faciliter le potentiel, la réalisation d'un potentiel. Il faut que cette association, Ensemble pour le DAB+, convainque maintenant les pouvoirs publics d'accompagner financièrement, juridiquement, réglementairement pour l'installation des puces DAB+ dans l'ensemble des terminaux, pour que ce mode de diffusion devienne une vraie réalité dans une majorité de la population, là où aujourd'hui elle couvre la majorité de la population, mais l'ensemble de la population n'est pas équipé pour la recevoir.
Merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Et on remercie Manon et Natacha pour ce Zoom, et je vous propose une ultime pause musicale avant de conclure cette émission. My magazine, you blew my mind like no one of the humankind. You were the only one I could ever speak. This secret language between us and the sheets. You made my mind and body so high. You turned this wild child into a lady by night. And when I met you long ago, I was so alone. My heart was beating so fast, I had to write this song. And it goes, you make me feel so beautiful. It's like the sun is always shining when you are in control. You are my mystery, and there's no way I can explain the way you make me feel. Midnight loving on your balcony, I'm feeling wobbly right at the knees. You thought that would be me. You lift me up to where I wanna be. You make everything so clear, I can finally see. You are the one that I always think about. My first love that I made this song about. You know me well and you always make me feel like I'm the one, and I know your love is real. I love it when you whisper in my ear. You say the sweetest things that I wanted to hear. I never thought I could feel this way. And when I leave you in the morning, I think of you all day. I feel so peaceful after we make love. I'll lay in forever, just like the sweetest joy. And the whole world around us stop and say, it feels so good to fall asleep knowing that you are there. Come on, you make me feel so beautiful. It's like the sun is always shining when you're in control. You are my mystery, and there's no way I can explain the way you make me feel. And when you left me out this day, I thought you will come back anyway. But that's okay, I ain't gonna fall. I gotta get up and roll, that's the way you want it. And I won't help it, I'm off to search new lover. With my chance I might find better. I can picture you alone in bed and with the time. Damn, I wonder why I broke up with this real. I'm so alone, I can't get her phone. I can call her back and I... C'était First Love de Oufi et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et on va finir l'émission avec la chronique de Fabien. Bonsoir Fabien.
Bonsoir. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler. Donc, je vais vous faire faire des escapades en dehors de Paris. Donc, aujourd'hui, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent et les Parisiens font la gueule dans le métro, comme d'habitude. Le printemps pointe le bout de son nez et ça va être l'occasion de faire quelques escapades afin de s'échapper de Paris et de son ambiance morose. Le tout sans débourser un centime, juste avec votre passe Navigo. Et on commence par une cité médiévale qui a traversé les siècles à 1h20 de la gare de l'Est. C'est l'un des 5 sites franciliens à figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses remparts, son donjon, ses maisons traditionnelles et ses rues étroites. La cité médiévale de Provins en Seine-et-Marne est un décor en soi. Vous y remonterez le temps en partant notamment à la découverte des souterrains, jadis repères de sociétés secrètes, et du magnifique prieuré Saint-Ayoul, sans oublier la tour César, symbole de la puissance de la ville et des comtes de Champagne au Moyen-Âge. Pour l'accès, c'est la gare de Provins à partir de la ligne P, gare de l'Est. Au cœur des Grands Lacs, à 58 minutes de la gare de Lyon, entre voie de halage et vue panoramique depuis les champs de blé du plateau Briard, cet itinéraire de la Seine des Grands Lacs, entre les gares de Montéreau-Fontionne et de Champagne-sur-Seine, est aussi l'occasion de découvrir un monument naturel francilien, une immense zone humide de la Bassée, succession de lacs, de rivières et de tourbières. C'est la randonnée la Seine des Grands Lacs, de la gare de Montéreau-Fontionne, j'ai pas y arriver, ligne R, à celle de Champagne-sur-Marne, toujours sur la ligne R. C'est un itinéraire de 20 km et de 7 heures de marche quand même, donc il faut être endurant. À la découverte d'une curiosité paysagère et architecturale à 40 minutes de Châtelet-les-Halles. Une tour qui penche, une pyramide sur l'eau et une succession d'arches rouges qui rappellent le sanctuaire Fushimi Inari Tashia à Kyoto, donc au Japon. L'axe majeur est une curiosité paysagère et architecturale. Longue de 3 km, il relie le long de l'eau de la ville aux étangs de Neuville en enjambant l'Oise. Une place tout en colonnade marque le point de départ de la balade qui offre une vue imprenable sur les tours de la Défense. Profitez-en tant qu'il reste à l'écart des foules. Pour y aller, c'est l'axe majeur, c'est 5 rue de l'Esplanade de Paris à Cergy. Et pour l'accès, c'est vous arrêtez à la gare de Cergy-Saint-Christophe, pardon, par le RER A. Et enfin, pour conclure, on finit au milieu des vignes de Champagne, c'est à 50 minutes de la gare de l'Est. C'est situé aux confins de l'île de France, à la frontière avec l'Aisne. C'est un circuit qui vous fera parcourir la vallée de la Marne à travers les nombreuses vignes de Champagne. Au programme, la Marne, évidemment, les jolis villages de Nanteuil et Pavant, en Seine-et-Marne, l'aqueduc de la Due et bien sûr des steppes à perte de vue. Et pour y aller, la randonnée la Marne par les vignes et les coteaux, c'est une boucle de 18 km depuis la gare Nanteuil-Sassy par la ligne P. 4h30 de marche. Le topo guide, est téléchargeable gratuitement sur helloway.com.
Merci Fabien pour ta chronique bucolique qui vient hélas sonner la fin de cette matinale de 19h. Il est temps pour moi de remercier toutes les personnes devant et derrière les micros. Bon, je suis d'accord que ça marche moins bien avec les micros qu'avec les caméras, cette analogie. Merci Joey à la réalisation, merci PA pour l'interview, merci Antoine pour le flash info et merci Fabien pour ta chronique. Merci également aux auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Restez à l'écoute. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Campus Paris.